Bonjour, vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïca. Aujourd'hui, au programme de cette première émission de l'année 2025, avec Mathieu Lours, bonjour, qui publie aux éditions du CERF « Autant des cathédrales » dans la collection « La bibliothèque a remonté le temps ». Alors, c'est un ouvrage tout à fait passionnant. Mathieu Lours, vous êtes historien de l'architecture et spécialisé dans le domaine de ces grandes cathédrales, en particulier gothiques. On vous a beaucoup entendu à l'occasion de la réouverture de Notre-Dame de Paris, c'était au début du mois de décembre dernier. Je voudrais qu'on commence par une définition de ce qu'est une cathédrale. Ce n'est pas le gigantesque du bâtiment qui commande ici, mais plutôt sa fonction.
Exactement. Une cathédrale, c'est avant tout l'église d'un évêque. L'évêque, dans un territoire qu'on appelle le diocèse, c'est celui qui exerce la plénitude des fonctions sacerdotales. Et donc l'église dans laquelle il exerce, c'est l'église qui est symboliquement l'église mère de toutes les autres églises du diocèse. C'est souvent là, d'ailleurs, où il y a les reliques, où la tombe du saint qui a apporté l'évangile dans ce territoire. Et donc l'évêque, il place son fauteuil, en grec ça se dit cathèdre, son trône, et la cathédrale, c'est l'église qui contient la cathèdre, donc si cette église est petite, ben la cathédrale est minuscule, et si cette église est grande, ben évidemment c'est une grande cathédrale, mais il y a vraiment des cathédrales de toutes sortes, de toutes dimensions, et de toutes périodes.
Autour de l'évêque se trouvent des prêtres directement attachés à la cathédrale, il constitue ce que l'on appelle le chapitre cathédral, ce sont des chanoines.
Oui, au Moyen-Âge, ils sont très importants, d'abord du point de vue des rites, parce qu'ils prient sept offices dans la cathédrale tous les jours et célèbrent deux messes collectivement. Donc ils occupent les lieux, je dirais, ils les font vivre un peu comme des moines dans une abbaye. Et puis parce que jusqu'en 1516, c'est eux qui élisent l'évêque. Ensuite, le roi de France va passer des accords avec le pape, le concordat de Bologne, c'est lui qui va nommer ses évêques. Mais c'est vraiment en quelque sorte le sénat du diocèse. C'est lui qui assure la permanence de la fonction. Alors depuis la Révolution française, les chapitres ont perdu la plupart de leurs fonctions liturgiques, c'est-à-dire qu'ils prient plus sept fois par jour dans la cathédrale, mais lors des grandes fêtes, les chanoines sont toujours présents de manière honorifique pour seconder l'évêque.
Les chanoines constituaient aussi le conseil de l'évêque.
Oui, toutes les grandes décisions du diocèse étaient prises avec l'assentiment des chanoines, qui étaient aussi d'ailleurs des seigneurs féodaux, hein, comme l'évêque, ils possédaient des fiefs dont ils tiraient des revenus, et ils avaient à leur charge l'entretien et la propriété de la cathédrale. L'évêque avait à sa charge le sanctuaire et puis intervenait pour les grands travaux, mais le quotidien de l'entretien, c'est les chanoines, et des fois, ils vont même freiner les évêques dans les travaux, en disant, écoutez, vous êtes bien gentils, là, vous allez vous faire une donation pour construire un chœur énorme, mais après, c'est nous qui allons entretenir.
Le chapitre devient une institution propre avec son trésor, sa manse, son patrimoine, et qui a une influence sur le diocèse qui est parfois équivalente, voire même dans certains cas supérieure à celle de l'évêque.
Ah oui, on a des cas où effectivement le chapitre est plus riche que la manse épiscopale. Et puis dans la ville, le chapitre possède un quartier entier parce que les chanoines, après avoir vécu en commun au 8e, 9e siècle, ont abandonné cette vie collective pour avoir chacun leur maison. Alors évidemment, il faut bien imaginer qu'ils sont nombreux à Lens, dans l'Aisne actuellement. Il y avait 84 chanoines, hein. À Paris, 51. Donc ça veut dire 84 maisons à Lens, 51 maisons à Paris, sans compter les bâtiments collectifs, les archives, la salle capitulaire, la bibliothèque, l'officialité, c'est-à-dire le tribunal. tout ça, c'est généralement un quartier entier dans la ville, avec ses églises annexes, fermées la nuit d'ailleurs, et avec des règles d'habitation très particulières. On ne peut pas habiter là-bas si on est un laïc, sauf si on appartient à la famille d'un chanoine. Voilà, c'est vraiment une ville dans la ville, une sorte de ville ecclésiastique. À Paris, c'est toute la partie orientale de l'île de la Cité, au nord, avec le palais des évêques, au sud, de l'autre côté. À Lens, c'est l'inverse, le palais des évêques est au nord et les chanoines au sud. Voilà. Et parfois, il y a même un cloître architectural qui est réalisé. Il n'a pas la même fonction spirituelle qu'un cloître monastique, mais il a quand même cette forme qui perdure à Tours, par exemple, juste à côté de la cathédrale. Et c'est généralement un très bel ensemble patrimonial.
Alors même si l'inspiration canoniale remonte à saint Augustin au sortir de l'Antiquité, le premier à l'avoir, je dirais, normalisé est un évêque de Metz, Credegang, et là nous sommes au mi-temps du 8e siècle.
Oui, c'est ça. C'est au moment de la restauration carolingienne, entreprise par Pépin le Bref, qu'on va avoir cette volonté d'organiser les clercs qui forment l'entourage de l'évêque. Et c'est Credegang à Metz qui va le premier instituer cette règle. Alors, au départ, les chanoines mènent, comme je vous l'ai dit, une vie collective assez proche des réguliers. Ça va ensuite changer au XIIe siècle avec la sécularisation de ces chapitres. Et c'est un modèle qui se répand très rapidement. Très rapidement, à partir de la décennie 820-830, dans tous les diocèses en Occident, on a à côté de la cathédrale donc ce chapitre dont les chanoines desservent l'édifice.
Vous expliquez dans votre livre, Mathieu Lours, que ce que l'on appelle le temps des cathédrales, que l'on peut situer chronologiquement entre le XIe et le XIVe siècle, est intimement lié à la réforme grégorienne.
Oui, effectivement. La réforme grégorienne, c'est ce mouvement qui commence en fait dès la fin du Xe siècle et s'épanouit au XIe, qui conduit l'Église en Occident à se réaffirmer dans le cadre de la féodalité. La féodalité mettait en péril l'Église à cause du risque d'une privatisation des offices ecclésiastiques de la part des grands seigneurs féodaux. Et l'Église a réagi dans deux axes. Premièrement, en se réformant de manière à devenir spirituellement plus forte. Et d'autre part, socialement, en tirant parti de la féodalité. Et c'est les moines de Cluny en particulier, avec la fondation de Cluny à la fin du Xe siècle, qui lancent le mouvement. Mais la papauté en 1075 avec Grégoire VII synthétise tout ça. Et ça impose pour les évêques d'affirmer leur pouvoir et notamment de mettre en œuvre des édifices qui désormais abritent le peuple, les prêtres, c'est-à-dire les chanoines, et l'évêque, au lieu de ce qu'étaient autrefois les groupes cathédraux, les quartiers cathédraux jusqu'à cette date, eh bien c'était une grande église pour les cérémonies festives de l'évêque, une plus petite où priaient les clercs de l'entourage, puis les chanoines, et puis parfois même un baptistère, et puis à partir de la réforme grégorienne, tout le monde va être regroupé dans une même grande église, qui va d'ailleurs prendre une valeur spirituelle importante avec le développement des images, en particulier des images sculptées, parce que cette réforme, elle est aussi pastorale. Il s'agit d'arriver à parler aux fidèles de manière efficace et à faire passer les messages de l'Église de manière efficace.
Mathieu Lours, à la fin de la première moitié du XIIe siècle, on assiste à une mutation architecturale qui va dépasser très largement le cadre purement architectural. C'est le passage du roman tardif au gothique primitif. Et ce terme gothique est tout à fait péjoratif, ne s'imposera que très tardivement avec la Renaissance et puis plus encore au XIXe siècle. On parle à l'époque d'art français ou d'art francilien.
Oui, on parle généralement plus souvent simplement d'art moderne. Il y a quelques sources en Allemagne qui parlent effectivement d'opus francigenum, c'est-à-dire d'art né en France, entendu comme étant l'île de France. Et on dit plus souvent c'est opus novum qu'on trouve dans la plupart des textes, mais effectivement le terme de gothique, lui, c'est un dépréciatif. Alors pourquoi cette nouvelle architecture est née? Parce que elle servait la pensée de l'abbé Sugère de Saint-Denis, c'est-à-dire c'est né dans un contexte monastique pour exprimer un nouveau rapport théologique à l'essence de Dieu. Dieu est lumière, donc une architecture qui recherche davantage de clarté. Et puis il y a aussi la dimension évidemment politique et identitaire. Il s'agit d'affirmer la puissance du roi de France, dont les objets du sacre sont conservés à l'abbaye de Saint-Denis. Donc que Saint-Denis soit reconstruite de cette manière-là, c'est aussi une manière d'affirmer la puissance du roi de France, d'abord sur ses vassaux, puis à l'échelle de l'Europe. Et ce gothique est très vite considéré comme un atout aussi par les évêques. C'est-à-dire que Saint-Denis est entreprise vers 1130-1135, et la première cathédrale entreprise en gothique, celle de Sens, historiquement en Champagne, aujourd'hui en Bourgogne, est entreprise vers 1135-1140, c'est-à-dire immédiatement après. Il y a comme ça un processus de rivalité et d'émulation qui conduit à cette floraison de cathédrale. On part de la pensée d'un moine, on passe ensuite à la volonté d'efficacité pastorale de l'évêque, et le gothique, comme ça, gagne les abbayes, les paroisses, et à partir du XIVe siècle, l'Europe entière construit en gothique, même à partir du XIIIe, en fait. Il y a du roman tardif dans le Saint-Empire et en Italie, mais on construit déjà, en fait, à côté en gothique.
Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Passé-Présent. Je vous retrouve immédiatement ensuite pour reprendre cette conversation, Mathieu Lours. Nous allons écouter Laurent Voulzy, qui a pris, lui, l'habitude de chanter dans les cathédrales. Nous écoutons Jeanne, un extrait de son album Lies and Love. C'était en 2011.
Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin, si loin d'ici. Des siècles nous séparent et mon cœur s'égare. Un amour subtil l'a pris et je chante ma peine loin de celle que j'aime. L'âme pleine de mélancolie et je chante ma peine loin de celle que j'aime. L'âme pleine de mélancolie. Jeanne, j'aurais aimé vous plaire et je désespère de venir un soir à vos genoux. Thank you.
Vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka. Mon invité, Mathieu Lours, historien de l'architecture, pour évoquer le livre qu'il publie aux éditions du CERF, « Au temps des cathédrales ». Vous le soulignez, Mathieu Lours, le gothique va très vite se répandre à travers le Royaume de France et au-delà, à travers l'Europe. Cela va susciter de très nombreux chantiers, des chantiers qui sont coûteux. L'évêque y est de sa poche, ce sera le cas en particulier pour Maurice de Sully à Paris. Les chanoines y concourent également. Les municipalités sont parfois sollicitées. Et puis, il y a des quêtes qui sont organisées, des reliques qui sont exposées. On essaye de trouver tous les expédients possibles pour réunir les fonds nécessaires.
Oui, il y a vraiment une mobilisation. Il faut bien distinguer deux choses. Il y a d'une part les financements extraordinaires, quand on doit lancer le chantier ou entreprendre une partie importante de la cathédrale, et puis ensuite les fonds ordinaires. Alors, pour l'extraordinaire, on a deux possibilités. Soit on fait des coupes de bois, on va couper la forêt, on peut faire ça tous les 25 ans, mais quand on peut le faire, on le fait, ça rapporte beaucoup d'un seul coup. Ensuite, on va faire appel aux dons, comme vous le disiez, et ce sont surtout des dons ecclésiastiques. Ce sont surtout l'évêque, les chanoines qui contribuent. En France, les rois ont très peu contribué, à la différence de l'Angleterre et du Saint-Empire, aux constructions de cathédrales. Et puis, il y a ensuite les quêtes. Mais alors, ça dépend. Est-ce que la cathédrale possède ou non des reliques qui peuvent susciter la générosité des fidèles et à quelle échelle? À Reims, par exemple, on a les reliques du lait de la Vierge qui sont très vénérées, les reliques du Saint-Lait qui attirent des pèlerins de très loin. À Cahors, il y a la Sainte Coiffe du Christ, mais à Chartres, n'en parlons pas, avec le manteau de la Vierge Marie, mais à Paris, par exemple, il n'y a aucune relique qui attire au-delà des limites du diocèse. Et donc, à ce moment-là, c'est plus compliqué. Et puis, pour l'ordinaire, eh bien, il faut faire avec les revenus fonciers du chapitre, de l'évêque, en fonction des disponibilités. Et ça explique, en fait, des chantiers qui fonctionnent par à-coup. Où on va avoir possibilité de construire, par exemple, à Paris, le chœur, ça va très vite, hein, en 163, en 182, la nef, ça va un peu plus lentement. Mais comme on n'a généralement pas conservé tous les comptes de construction de cathédrale, on est un petit peu tenu à des suppositions, ou bien quand on a dans un endroit une certitude, voir si ça fonctionne comme ça ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que tout ça ralentit à la fin du XIIIe siècle, début XIVe, avec l'arrivée de la crise économique et du retournement de tendance démographique.
Mathieu Lours, chose assez surprenante, ces chantiers ne sont pas pléthoriques. Ce sont quelques dizaines d'ouvriers qui y travaillent. Des ouvriers remarquablement qualifiés, mais peu nombreux.
Oui, il faut une cathédrale, c'est une affaire de spécialistes. Hein. À part pour charrier la pierre et le bois, on n'a pas besoin de main-d'œuvre non qualifiée. Donc, on va avoir quoi, une trentaine, voire une cinquantaine de maçons, une centaine de manœuvres, et ça suffit. Alors après, à certains moments, le peuple des villes a pu contribuer à des gros travaux de terrassement, spontanément, ou des travaux de transport de matériaux, dans des élans de générosité, de piété, parce que c'est la fierté urbaine. En tout cas, il n'y a pas eu de travail forcé, et il n'y a pas eu de travail gratuit qui a été imposé. Hein, on a vraiment affaire là à un métier, hein, qui était d'ailleurs très jaloux de ses prérogatives. Et on ne peut pas dire que voilà, il y a toute une mythologie au XIXe siècle qui s'est créée autour de cette idée que le peuple aurait spontanément bâti des édifices pareils. Non, il faut des compétences, mais je trouve que c'est assez touchant parce que ça révèle quand même l'idée qu'on redécouvrait à l'époque romantique, l'attachement aux monuments et aux constructions. Donc je pense que ces petites histoires entre guillemets ont aussi leur valeur.
Le gothique, Mathieu Lours, c'est une véritable course à la hauteur et au gigantisme.
Oui, c'est ça. On a, comme je vous le disais, un processus de rivalité et d'émulation qui s'opère dans le monde architectural. Ça vaut pour les châteaux, ça vaut pour les palais, ça vaut aussi pour les églises, surtout à partir de la fin, deuxième moitié douzième, on est vraiment dans cette course au gigantisme. Et c'est l'apogée de cette course au gigantisme, c'est plutôt le XIIIe siècle. La première cathédrale vraiment géante, c'est Reims. on pensait à Paris avoir atteint un seuil. Quand Paris est commencé avec ses 120 mètres de long, ses 33 mètres de haut, pendant 30 ans, elle est quasiment hégémonique avec ces dimensions-là. Puis avec Chartres et Bourges, on dépasse d'un petit peu. Et puis avec Reims, Amiens, on va vraiment avoir des édifices géants de quasiment 150 mètres de long, 42 mètres de haut à l'intérieur. Et puis le prodige de Beauvais, où là, en dimension, c'est grand, mais c'est pas colossal, mais la hauteur sous voûte est de 48 mètres.
Et mais elle s'écroulera. Elle va s'écrouler à deux reprises, à Beauvais.
Bon, écoutez, elle est toujours debout. Elle s'est écroulée modérément, on va dire. En 1284, vous avez la chute d'un voûtin du cœur, mais elle est restaurée avec doublement du nombre des supports, de manière justement à pouvoir assurer sa solidité. Et puis l'autre effondrement en 1574, c'est la tour du transept qui s'écroule parce qu'on n'avait pas pris soin de construire une nef pour la contrebuter. Mais le gros du cœur du XIIIe, il est toujours là. Je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein avec Beauvais et de se dire qu'un édifice pareil aurait pu finir par terre. Et que le prodige, c'est de l'avoir encore.
La cathédrale, et on a parfois du mal à se l'imaginer, était polychrome.
Oui. On est au Moyen-Âge dans un univers de couleurs qui ne se limite pas seulement aux vitraux. Et c'est les murs tout entiers qui sont polychromes, soit avec des couleurs d'apprêt et d'enduit, soit avec des éléments figuratifs. Le figuratif plutôt dans les chapelles. On peut voir la chapelle d'Aix au Mans avec les anges musiciens sur fond rouge. Encore, et puis pour le reste, plutôt des enduits. C'est à Chartres hein, qu'on a la meilleure idée de ce qu'était un intérieur de cathédrale début XIIIe, puisqu'on a pu retrouver les enduits d'origine avec leurs couleurs et les réintégrer dans la restauration qui est encore actuellement en cours, là, qui est en train de s'achever pour le transept et qui reste pour les bas-côtés de la nef encore. À Paris, donc la couleur en lait de chaux qu'on a actuellement donne une bonne idée de la blondeur de la pierre, mais c'est la couleur du calcaire, en fait, qui est révélée par l'enduit. Il n'y a pas à Paris de traces archéologiques des enduits du XIIIe, parce qu'au XVIIIe siècle, il y a eu un bûchage systématique des enduits pour voir les plâtrer en blanc. Alors qu'à Chartres, le chapitre avait moins d'argent, et à Chartres, on a donc juste eu un badigeon par-dessus les enduits anciens, qui a permis de beaucoup mieux les préserver. Vous voyez que c'est vraiment la réalité archéologique qui commande un petit peu sur toutes nos connaissances. C'est d'ailleurs une aventure passionnante parce que tout ça a été révolutionné depuis une cinquantaine d'années, d'abord par des grands historiens comme Alain Erland Brandenburg, et puis ensuite par les recherches des chercheurs du laboratoire de recherche des monuments historiques. C'est vraiment passionnant et de voir que les restaurations tiennent aujourd'hui compte de cette réalité polychrome.
Il faut imaginer que un portail de cathédrale à l'époque médiévale était scintillant de couleurs, des couleurs qui avaient une charge symbolique très importante était en mesure de décrypter.
Oui, vous en voyez encore les traces à Senlis, à Angers, enfin il y a il y a un certain nombre de portails qui ont conservé comme ça leur polychromie, mais en revanche, il faut s'enlever de l'esprit que ça ressemblait aux sons et lumières qu'on voit parfois sur les cathédrales. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est des sons et lumières de nuit qui reconstituent des couleurs très brillantes pour qu'on les voit dans le noir. En fait, c'est des couleurs très douces, c'est des couleurs à la détrempe, avec des pigments très subtils. Et donc, c'est pas si flashy que ça, pour utiliser un terme un peu trivial. C'est des couleurs très douces, et puis on a donc cette symbolique de la couleur qui permet de reconnaître les personnages. Le bleu du manteau de la Vierge, le rouge du manteau du Christ à la Passion sont vraiment des couleurs extrêmement codées. On va avoir le vert qui est la couleur de l'espérance, et puis on a l'or également qu'on va réserver aux parties les plus précieuses, qu'on considère au Moyen-Âge comme le seul matériau qu'on ne peut pas simuler. C'est-à-dire que l'or, on n'a pas encore de peinture dorée à cette époque-là. Vous voulez de l'or, vous êtes obligé d'utiliser de l'or lui-même. Donc on le réserve pour peindre par exemple la gloire de Dieu, la présence de Dieu, les auréoles, tout ça c'est de l'or.
La cathédrale est aussi un lieu politique.
Oui, c'est un lieu politique à plusieurs échelles. Ça dépend où, essentiellement dans les villes royales. Plusieurs cathédrales ont été les lieux des sacres et des couronnements des rois de France. Alors ça s'est stabilisé à Reims à partir de Pépin le Bref, mais on a eu des cérémonies également à Orléans, à Noyon pour Charlemagne, à Soissons. Donc il y a comme ça, petit à petit, donc une géographie politique qui se centre sur Reims pour les sacres. Saint-Denis pour la conservation des insignes de la monarchie. Et puis, vous avez la cathédrale de l'exercice du pouvoir, qui est Paris. Notre-Dame de Paris, c'est là que le roi de France vient prononcer son serment, après avoir été sacré à Reims, de défendre les privilèges et indépendances du clergé de France, et au-delà, en fait, l'indépendance du royaume tout entier. C'est là que son corps est exposé après sa mort, avant les funérailles à Saint-Denis. Donc on a, comme ça, toute une géographie, et puis quand il y a...
Les états généraux vont s'en tenir à Notre-Dame de Paris.
Oui, alors, oui, les assemblées de Notre-Dame, hein, qui préfigurent un petit peu les états généraux en 1302, pour justement affirmer les libertés de l'Église de France face aux prétentions du pape, hein, Philippe le Bel, les organise à Notre-Dame, et où on avait déjà organisé d'ailleurs un concile dans les années 1220, si je me souviens bien, au sujet de la croisade contre les Albigeois. Donc, il y a aussi
et le procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc.
Procès de réhabilitation en 1455. Mmh. Et puis, dans les autres cathédrales qui sont situées dans des provinces plus éloignées du centre du pouvoir, on a quand même des prières qui sont demandées pour le roi et pour le royaume à certains moments importants. Les grandes victoires comme Bouvines, par exemple, sont célébrées. Alors, ça prendra la forme au XVIIe siècle extrêmement ritualisé du Te Deum qu'on célèbre dans toutes les cathédrales pour les moments importants de la monarchie.
Précisons quand même que Notre-Dame de Paris est la cathédrale d'un évêque et non pas d'un archevêque jusqu'au XVIIe siècle.
Oui, c'est ça. Notre-Dame de Paris, c'est un peu le l'hubris de Maurice de Sully. C'est-à-dire qu'on va construire une cathédrale qui, normalement, dépend de l'archevêché de Sens. C'est-à-dire que l'évêque de Paris est suffragant de l'archevêché de Sens.
D'où l'hôtel de Sens.
L'hôtel de Sens, parce que pour l'investiture d'un évêque de Paris, il fallait que l'archevêque de Sens soit présent. L'archevêque de Sens est conseiller au conseil du roi, donc il doit être présent dans la ville, il a son hôtel. Et quand l'évêque de Paris décide de construire une cathédrale qui est deux fois plus grande que celle de son archevêque, on imagine quand même la stupéfaction en termes de hiérarchie ecclésiastique. Mais il faut dire aussi que la ville de Paris, c'était déjà 250 000 habitants et la ville de Sens, c'était 20 000 habitants. Donc la hiérarchie avait été définie à la fin de l'Antiquité, à l'époque où Sens était plus importante que Lutèce, mais là, on a un véritable rattrapage par la cathédrale du statut réel de la ville.
Qu'est-ce qui explique le déclin des cathédrales, disons, à partir du 15e, 16e siècle?
Alors, il n'y a pas vraiment de déclin, il y a un équipement qui fonctionne.
Il y a un désintérêt. On ne se passionne plus pour de tels chantiers.
Non, mais parce que les édifices sont suffisants, d'une part. Généralement, ils sont quand même globalement, à part quelques cas comme Beauvais, ils sont généralement achevés et ils peuvent accomplir leur rôle. Mais ce qui est sûr, c'est que le système socio-économique permet beaucoup plus difficilement de mobiliser des grandes sommes d'argent à partir des revenus fonciers. Et donc, construire une tour de cathédrale peut prendre parfois 2 siècles à cette époque-là, quand auparavant, ça prenait 40 ans. Donc il y a cet aspect-là des choses. Et il y a aussi le fait que désormais, on va avoir les donateurs qui vont plutôt s'orienter vers les couvents, vers des monastères où, si vous êtes noble, vous pouvez vous faire enterrer et une communauté monastique priera pour votre âme, spécifiquement. Donc il y a tout ça. Et puis il y a le contexte de la guerre de Cent Ans. Très souvent, les évêques cessent de résider dans les villes. Ils vont résider dans des châteaux qui leur appartiennent. Le lien se distend un petit peu entre l'évêque et la ville. Et ça va se retrouver, en fait, ce lien plutôt après le concile de Trente, où là, on va redécorer tous les intérieurs de cathédrales, lancer des chantiers d'achèvement, recommencer à construire des cathédrales en style classique. C'est en quelque sorte la réforme catholique.
C'est le cas de Versailles en particulier.
Et puis La Rochelle, Montauban, Alès, souvent c'est aussi construit comme un outil pastoral contre les protestants. Dans des villes qui ont été protestantes, on va construire d'énormes cathédrales classiques pour rappeler l'importance du retour au catholicisme.
Il y a comme un nouvel élan au XXe siècle avec la construction de quelques cathédrales dans la seconde moitié du XXe siècle.
Oui, on a 3 exemples. On a l'achèvement de la cathédrale de Lille, avec sa façade, qui est achevée entre 1996
et 2000. Notre-Dame de la
Treille. Voilà. On a la cathédrale d'Évry, qui est un des grands projets de Mario Botta, l'architecte suisse, qui conçoit non seulement la cathédrale, mais tout le centre-ville, avec aussi l'hôtel de ville, si je me souviens bien.
Et qui est inspiré de la tour de Babel.
Voilà, avec ce cylindre tronqué, voilà, qui est vraiment une forme symbolique. Et on a la cathédrale de Créteil, la petite dernière.
Dont j'ai bien connu l'architecte, qui était un de mes amis.
L'architecte de...
De Créteil.
Celui qui avait construit l'église des années 70, qui a été démolie pour être remplacé en 2013, ou celui de chez Architecture Studio qui a réalisé la cathédrale actuelle?
Non, la cathédrale actuelle.
L'actuelle, ouais, d'accord. Oui, non, c'est vraiment une belle réussite, en particulier l'intérieur, là, avec l'arc de lumière du maître verrier Udo Zembock, là, ce maître verrier allemand qui a réalisé vraiment un très bel ensemble.
Et c'est Schoskopf qui est l'auteur de l'actuelle cathédrale de Créteil.
Non, ça c'est l'ancienne. Celle des années 80, celle des années 70, mais elle a été démolie en 2013 pour construire la nouvelle.
Ah oui, d'accord. Je me souviens d'avoir visité la précédente.
Voilà, oui, la précédente, elle n'était pas du tout adaptée à son rôle de cathédrale, en fait. C'était un édifice très bas, vraiment presque enterré. Et puis là, depuis 2013, ça ressemble vraiment à quelque chose d'élancé, de
d'accord.
lumineux.
Je ne la connais pas. Moi, j'en étais resté à la précédente.
Il n'y a qu'une partie de l'extérieur qui a été conservée, le porche,
d'accord.
Et puis la partie logement à côté. Mais non, c'était vraiment, ça avait été conçu pour être une église ordinaire. Ça n'avait vraiment pas les...
Ça n'avait pas les proportions d'une cathédrale, ça c'est certain.
C'était pas adapté à son rôle de cathédrale, et puis c'était très années 70 aussi dans l'esprit, c'est-à-dire la non-affirmation de l'identité catholique du lieu, une très grande discrétion vis-à-vis des immeubles environnants. Là, il y avait envie vraiment d'avoir aussi une architecture plus ambitieuse du point de vue esthétique.
En tout cas, Schoskopf était très fier de sa cathédrale. Il m'en parlait souvent avec beaucoup d'émotion, pour tout vous dire. Voilà.
C'est quelque chose qui marque, hein, de construire une cathédrale.
C'était une de ses grandes fiertés.
Oui, dans la carrière d'un architecte, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours une relève, à mon avis, pour travailler sur ces grands édifices.
Mathieu Lourse, merci beaucoup pour cet entretien.
Merci à vous.
Je voudrais également évoquer un autre livre qui vous concerne, à savoir « Les cathédrales dans le monde ». Entre religion, nation et pouvoir, qui a été réédité au début de l'année dernière dans la collection Folio chez Gallimard. Et c'est un ouvrage tout à fait remarquable et passionnant à lire, que je recommande chaudement, comme le temps des cathédrales, comme autant des cathédrales, à nos auditeurs.
Merci beaucoup.